J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre planète Terre, l'émission des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi jusqu'à 14h56 pour ce rendez-vous avec votre intuition géographique, nous sommes ensemble et en direct sur les ondes et sur Internet.
Absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, bah ça serait bien pour l'ensemble du pour le Brésil et puis pour la planète football.
Certains d'entre vous auront reconnu la voix de Michel Platini qui donne de bons conseils, en tout cas ses bons conseils à lui, aux manifestants brésiliens. Michel Platini, je le rappelle, est président de l'association de football en Europe, l'UEFA, et il aspire, dit-on, à présider la FIFA. La FIFA, donc l'association internationale de football qui gère donc ce sport à l'échelle mondiale. Alors, FIFA go home, FIFA rentre chez toi. Scande sans succès, les manifestants brésiliens depuis un an maintenant, alors que la Coupe du Monde de football va s'ouvrir demain. Mais la FIFA a-t-elle une maison ? N'est-elle pas comme le CIO, le Comité International Olympique, chez elle, partout dans le monde ? En partenariat avec le magazine Carto, nous évoquons aujourd'hui l'emprise territoriale, sociale et économique de ces deux nouvelles puissances du XXIe siècle, la FIFA, la Fédération Internationale de Football, et le CIO, le Comité International Olympique. On s'en rappelle peu, mais à l'aube des années 1980, le CIO était au bord de la faillite. Une génération plus tard, il génère des revenus dignes du chiffre d'affaires des plus grandes firmes multinationales et supérieurs au PIB de nombreux États. États dont le CIO comme la FIFA obtiennent qu'ils abdiquent toujours un peu plus de leur souveraineté sur des portions toujours croissantes d'espace en s'affranchissant complètement du droit international. Pour quels bénéfices et pour quels bénéficiaires? Et selon quels mécanismes? Question qu'on peut se poser aujourd'hui. Pour respecter son contrat avec la FIFA, le Brésil démocratique serait-il à deux doigts d'imposer la loi martiale dans les villes des matchs de sa Coupe du Monde de football? JO, Mondiaux, CIO et FIFA sont-ils les nouvelles puissances coloniales du XXIe siècle? C'est donc le sujet de Planète Terre cette semaine. Alors, élément de réponse avec mes trois invités. Didier Primo, qui est économiste du sport au CDES de Limoges, d'où il se trouve en duplex dans les studios de France Bleu Limousin. Jean-Marc Holz, qui est économiste et surtout géographe, qui est professeur émérite à l'université de Perpignan et qui a dirigé en 2011 les Jeux Olympiques et leur territoire aux presses universitaires de Perpignan. Et puis Loïc Ravenel, qui est en duplex des studios de France Bleu Drôme Ardèche, donc il est à Valence et il est maître de conférence à l'université de Franche-Comté et auteur de l'Atlas du sport mondial. Bonjour à tous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ma première question est très simple. À lire la presse ces 15 derniers jours et également en se plongeant dans les archives de ce qu'on peut trouver lors des éditions précédentes de ces grands événements qui ont lieu en général tous les 4 ans, que ce soit les Coupes du Monde de foot, que ce soit les JO d'été ou les JO d'hiver, ou même les championnats d'Europe de football ou les championnats d'Amérique latine de football, on justifie toujours ces grandes messes par les revenus qu'ils génèrent et aussi par le développement des territoires où ils sont organisés. Alors, qu'en est-il, Jean-Marc Holz, pour vous, du point de vue territorial? Est-ce que ça développe les territoires, ces très grands événements mondiaux?
Ça développe les territoires à différents niveaux, mais avec des coûts sociaux très lourds. Le sport est devenu aujourd'hui une industrie culturelle très importante, hein, puisqu'on peut considérer en gros que les activités sportives dans le monde représentent environ un chiffre d'affaires de 5 à 600 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose d'immense. Et on n'aurait pas ce chiffre d'affaires énorme avec tous les emplois, les milliers, les centaines de milliers d'emplois et dans tous les pays du monde que cela génère, on n'aurait pas cette création en quelque sorte de valeur sans le rôle important joué, et parfois contesté d'ailleurs, par le CIO notamment et par la FIFA. Donc oui, il y a un impact global positif, on crée de la richesse, on crée des emplois, mais le problème, c'est que bien souvent, ces énormes manifestations d'amplitude planétaire, comme les Jeux Olympiques ou autres, arrivent brutalement dans un pays qui est quand même mal préparé, qui n'a pas les structures souvent politiques, qui n'a pas fait de plan d'urbanisme, qui est parfois corrompu. Et il y a là un choc très brutal et on en a aujourd'hui une manifestation étonnante, enfin pas étonnante du tout d'ailleurs, avec ce qui se passe à São Paulo déjà en 2013 et puis à Rio il y a peu de temps.
Alors pour vous, Didier Primo, est-ce que vous avez le sentiment que il y a des revenus très importants qui sont générés par ces événements gigantesques, ou bien est-ce que c'est un peu une vue de l'esprit, pour ne pas dire, autre hypothèse, un discours qui est servi par ceux qui ont intérêt à faire croire que cela génère des revenus très importants, hein. Donc trois hypothèses possibles.
En fait, il y a un problème effectivement pour partie de manipulation, je dirais, des études et des données qui sont aujourd'hui relativement bien connues. Souvent, on utilise effectivement les retombées économiques, éventuellement calculées en amont de la manifestation, pour expliquer tout l'intérêt qu'on a à accueillir cette manifestation, alors même que la décision est prise par ailleurs et est souvent déjà prise. Donc on essaie de justifier par ce biais-là. Ça donne des études qui pendant tout un temps étaient extrêmement contestables sur un plan méthodologique. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a un consensus au niveau de la communauté scientifique pour dire que, un, les retombées économiques et financières, en termes strictement financiers et en termes d'emploi, sont nulles ou négligeables à l'échelle d'un pays pour ce qui concerne des grands événements comme ceux-là. Par contre, il y a d'autres effets, mais que les économistes peinent un petit peu plus à mesurer, à valoriser, et qu'on va appeler tantôt effet intangible, tantôt héritage, tantôt utilité sociale. Et ces effets d'entraînement, de façon générale, vont effectivement être observés peuvent être relativement importants dès lors que le territoire a un véritable projet avec l'accueil de l'événement. C'est-à-dire si l'événement est au service effectivement d'un projet clair, et le meilleur exemple, celui qu'on cite le plus souvent, c'est celui de Barcelone, qui a pu utiliser en fait les JO pour à la fois positionner Barcelone comme une grande ville européenne, mais également pour réorganiser finalement son territoire. Le projet était clair, il était très bien connecté avec les Jeux Olympiques et l'objectif donc qui était celui des Jeux Olympiques. Et là, on a pu observer des effets effectivement très très positifs. Donc il y a des effets, mais qui sont finalement pas tout à fait ceux qu'on met en avant habituellement.
Mais Jean-Marc Holtz, est-ce que Barcelone, les JO de Barcelone, c'est pas un peu l'exception qui confirme la règle? Parce que effectivement, comme ça vient d'être dit par votre collègue Didier Primo, c'est vrai qu'on cite, j'ai pas envie de dire toujours, mais très souvent Barcelone, peut-être les JO d'Atlanta aussi sont-ils à prendre en considération. Mais donc, d'où ma question, est-ce que Barcelone, ce n'est pas un peu l'exception qui confirme la règle, ou l'arbre qui cache la forêt?
C'est effectivement une réussite extraordinaire, une réussite très, très spectaculaire. Lillehammer, pour les Jeux d'hiver également, est considérée comme un véritable succès, avec des dépenses relativement faibles, une adhésion complète des populations au projet et une réutilisation systématique des équipements qui ont été implantés à la faveur des Jeux d'hiver. Mais la mesure des effets d'un phénomène quelconque est quand même très compliquée, comme l'a dit notre collègue de Limoges. Il y a des effets à court terme, il y a des effets à très long terme. Et si on se porte sur le très long terme, on voit que les Jeux Olympiques, finalement, ont été créés par un jeune homme qui avait 29 ans à la fin du 19e siècle. Et c'est devenu aujourd'hui une formidable machine. Alors on peut imaginer qu'effectivement, il y a une sorte de dérive. On peut aussi se dire que l'olympisme est intégré à la société. Il épouse un petit peu les différentes évolutions de la société. Vous l'avez dit en introduction, en 1980, les Jeux étaient près de mourir. Et donc, ça prouve bien que c'est quelque chose de fragile. Ils ont dû s'adapter. Et l'adaptation qui est due justement à un Catalan, Samaranch, a consisté à épouser en fait le libéralisme naissant et l'économie néolibérale triomphante, à surfer un petit peu sur cela. Alors, quant aux bénéfices qui sont strictement ceux du CIO et ceux de la FIFA, je crois qu'il faut, distinguer les choses. D'abord, quand on regarde les comptes économiques de ces deux associations, qui sont des associations de droit privé pour la FIFA et INUE, une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif pour le CIO, les comptes montrent que finalement on n'a pas des chiffres qui sont exorbitants. Par exemple, la totalité des réserves accumulées par le CIO depuis son existence, c'est un chiffre énorme, à nos yeux 1 milliard d'euros, mais ça correspond à 1/10 des profits d'une multinationale française pendant un an.
Donc, mais il faut relativiser. C'est une ONG. Donc,
c'est une ONG et elle est à but non lucratif. Donc elle a simplement des réserves pour éventuellement faire face à des difficultés qui peuvent survenir au niveau des jeux, par exemple, qui sont toujours quand même soumis à toutes sortes d'aléas, notamment des aléas climatiques pour les jeux d'hiver.
Bien sûr. Alors, aléas politiques aussi. Loïc Ravenel, hein, vous qui avez donc publié un atlas du sport mondial avec un de vos collègues, mais vous êtes plus particulièrement, si je ne me trompe pas, spécialisé, vos recherches portent plus particulièrement sur le monde du football et notamment les conditions de travail et de rémunération des joueurs. Moi, j'ai lu hier, comme c'était très facile à faire, c'était dans les Échos qui sont parus donc hier matin. Il y a une double page consacrée donc à la Coupe du Monde de foot. Et là, on voit que entre le budget prévisionnel du Mondial et les dépenses engagées fin février 2014, hein, donc on n'est pas encore au bout, manifestement, il y a une différence de 1 à 2. Il y a un rapport de 1 à 2. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît courant, qui vous paraît fréquent? Et là aussi, comment faut-il l'interpréter? C'est-à-dire que dans les dépenses, dans le budget prévisionnel, hein, on trouve effectivement la construction des stades qui fait polémique, qui fait controverse, qui fait encore débat, hein, au moment où la Coupe du Monde va s'ouvrir demain. Mais on trouve aussi l'agrandissement ou la modernisation des aéroports. On trouve aussi la modernisation des infrastructures de transport. Et on a vu à quel point, semble-t-il, c'est quelque chose d'assez décevant. Hein. Donc, comment se fait-il que cet objectif n'ait pas été atteint? Où est passé l'argent, hein, puisqu'il s'agissait quand même d'y consacrer près de 3 milliards de réal brésilien et aujourd'hui on en est paraît-il à 8 milliards. Bref, bon, là on a un cas, j'allais dire, très très actuel. Comment vous pouvez-vous l'interpréter à la lumière des autres mondiaux? Et puis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par votre collègue Jean-Marc Holt sur le fait que, avec, disons, le paradigme néolibéral depuis le début des années 80, il y a manifestement un tournant, hein, qui a été pris, à vous de voir s'il faut le qualifier soit de dérive, soit d'évolution, autour de ces grands événements? Loïc Ravenel.
Alors, tout d'abord, je souscris à tout ce qui a été dit par Didier Primo et Jean-Marc Holtz, hein, sur cette évolution. Concernant notamment du point de vue économique et de la justification des coûts, il est clair que pour moi, c'est un discours. C'est-à-dire qu'on va utiliser très souvent les retombées économiques pour faire passer le projet au niveau du pays, au niveau de la population, alors que toutes les études économiques, comme l'a rappelé Didier Primo, montrent que les effets sont quasi nuls, voire négatifs. Je prendrai juste un exemple. On met toujours en avant la multiplication du nombre de touristes pendant un grand événement sportif, alors qu'on s'aperçoit après que, généralement, cette fréquentation est plus faible qu'une année normale, tout simplement, car plein de gens ne décident de pas aller, par exemple, au Brésil en ce moment, tout simplement parce que ça va être compliqué, les prix sont plus chers, et vont attendre une autre période pour reporter leur voyage.
Ça, c'est drôlement important. Alors, ce que vous dites là, hein, Loïc Ravenel, je me permets de le souligner, parce qu'effectivement, c'est totalement, non seulement c'est contre-intuitif, mais en plus, ça va totalement, à contre-courant de tout ce qui nous est dit par non seulement le CIO et la FIFA, mais également par les pouvoirs publics, les comités d'organisation. Enfin,
Oui, alors c'est surtout les pouvoirs publics et comités d'organisation qui valorisent cette argumentation.
Mais c'est important effectivement de savoir qu'en fait il y a moins de touristes. Alors dis donc, on se demande à quoi ça sert de faire tout ça.
Alors disons que c'est une question après de temporalité. C'est-à-dire que pendant le mois où va se dérouler la compétition, on peut avoir moins de personnes que pendant un mois normal, je dirais, sans compétition. Après, c'est sur le long terme et c'est les célèbres effets d'image, de notoriété qui sont quasiment immesurables. Mais pour lesquels on suppose qu'il y aura dans les 5-10 ans à venir une image améliorée, donc un nombre de touristes plus important. Encore faut-il que l'événement soit réussi. Mais pour en revenir donc à votre question concernant les budgets, je crois qu'il faut bien différencier deux choses. Il y a d'abord la question des infrastructures qui sont demandées par la FIFA ou par le CIO. Alors, dans le cadre de la FIFA, elle concerne essentiellement les équipements, à savoir les stades, qui doivent avoir un certain nombre, à la fois des capacités et un certain nombre d'aménités. Donc, la FIFA fait une demande au minimum de 8 stades avec quelques capacités suivant le type de match qu'elle doit accueillir. Et les aménagements que décide le gouvernement du pays concerné pour accueillir cette Coupe du Monde. Et là, ces équipements ne sont pas du fait ni de la FIFA ni du CIO, mais sont bien très souvent une décision gouvernementale. Et les sociétés, ou plutôt les gouvernements, vont utiliser, comme le disait Jean-Marc Holt, les Jeux ou la Coupe du Monde pour réaliser un certain nombre de projets. Alors, soit qui étaient dans les cartons et qu'on en profite pour ressortir, soit pour aller planifier quelque chose. Mais bien évidemment, encore faut-il que cette société ait une gouvernance qui soit capable de le réaliser. Et dans le cadre brésilien, on voit bien que les aménagements concernant les aéroports, concernant essentiellement les effets de transport, soit ne sont pas réalisés ou ne seront même pas réalisés dans les prochains mois ni les prochaines années. Et il y a surtout un dérapage de ce côté-là. Un petit peu sur les stades, mais beaucoup moins que par rapport à ces projets d'aménagement de territoire. Donc, mais est-ce une réalité ? Il suffit de se reporter au mois de février récemment avec les Jeux de Sochi, où là, les budgets ont été totalement explosés. Même ces budgets n'ont rien à voir encore par rapport à la Coupe du Monde qui a lieu actuellement au Brésil. Et là, je crois qu'il ne faut même pas chercher la logique des retombées économiques, mais on est bien dans une politisation, dans une géopolitisation de plus en plus forte, d'ailleurs, de ces grands événements mondiaux. Et c'était le cas depuis... On pourrait dire depuis un certain nombre d'années, depuis 2008 à Pékin par exemple, les Jeux Olympiques de Rio 2016 seront la même chose. On parle de la Russie 2018, du Qatar 2022. On n'est pas dans les logiques économiques, des logiques où on espère faire du bénéfice pour aussi bien les sociétés que les organisateurs, mais bien dans des logiques avant tout qui répondent à des objectifs politiques. Et c'est un élément extrêmement important.
D'accord, mais j'ai quand même, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, peut-être d'abord à vous, Didier Primo, puisque vous êtes le plus économiste de vous trois. Moi, j'ai quand même lu dans un certain nombre de publications qu'après tout, on pouvait légitimement se poser la question suivante. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire, quand on organise ce type d'événement, de construire autant d'équipements neufs ? Et la question, elle n'est pas uniquement théorique ou elle ne vaut pas uniquement pour la Coupe du Monde de Brésil. Sans doute un certain nombre d'auditeurs ont-ils oublié ou n'ont-ils pas oublié que la France a obtenu, s'est portée candidate et a obtenu l'organisation du prochain championnat d'Europe de football qui aura lieu en 2016, qui va sans doute être le plus grand. Puisque le nombre d'équipes a été encore augmenté jusqu'à, je crois que c'est 24 maintenant. Je parle sous votre contrôle à tous les trois. Et là, on est déjà en train de refaire un certain nombre de stades, voire de construire ex nihilo des stades, notamment, je pense, à celui qui fait le plus polémique, le nouveau stade de Lyon, entièrement construit, si je ne m'abuse, par des entreprises privées, comme si on voulait dessaisir les collectivités locales qui sont très traditionnellement, soit propriétaire, soit en tous les cas gestionnaire de ce type d'équipement. Or, la France a accueilli, il y a quand même assez peu de temps, un championnat du monde de football. Donc, est-il vraiment nécessaire de refaire des stades ? Je connais moins bien la situation du Brésil, mais sans doute la question se pose-t-elle pour le le Brésil. On avait un stade mythique, le Maracanã, qui comprenait 200 000 personnes, enfin 200 000 places. Aujourd'hui, on l'a totalement reconstruit pour qu'il n'en contienne plus que 80 000. Donc, moi, je veux bien que ce soit pour des raisons uniquement politiques, mais on a quand même l'impression qu'il y a des intérêts, on va dire privés assez importants, qui sont mêlés à tout ça. Et puis, vous l'avez dit, les uns et les autres, le CIO comme la FIFA sont également des associations ou des organismes privés. Toujours dans le même dossier des Échos, j'ai cru comprendre que la FIFA allait de manière quasiment certaine générer un revenu, enfin bénéficier pardon, d'un revenu de 5 milliards de dollars rien que sur cette Coupe du Monde. Donc, est-ce que c'est vraiment uniquement une question politique et est-ce qu'il n'y a pas là plutôt aussi, en tous les cas, des enjeux de mainmise finalement économique où un certain nombre d'acteurs plutôt privés essayent de ponctionner des richesses qui pourraient être produites autrement et affectées autrement?
Didier Primo. Beaucoup de choses, effectivement, beaucoup de choses. Sur la nécessité de construire les équipements, clairement, dans un certain nombre de cas qu'on peut très vite illustrer, la réponse est surjouée par les États au regard de ce qu'exigent les pouvoirs sportifs. Hein. Dans l'exemple du Brésil, qui nous intéresse particulièrement cette année, il faut rappeler que pour la FIFA, 8 à 10 stades étaient nécessaires pour effectivement accueillir la Coupe du Monde. C'est un choix du Brésil et un choix, en l'occurrence politique du Brésil, que d'en construire 12 et de les construire de telle sorte que l'ensemble du pays puisse être mobilisé sur cet événement. Et ce qui amène à la construction des stades qui aujourd'hui sont effectivement sur un plan économique, social, politique, peut-être les plus contestables, des stades éventuellement, par exemple à Manaus, où on sait qu'il n'y aura pas
Manaus en Amazonie,
de clubs résidents, donc éloignés des zones effectivement économiquement les plus aptes à générer aussi une activité autour de ce stade ultérieurement. Donc on sait là quasiment de façon certaine qu'on va produire ce qu'on appelle un éléphant blanc, comme on a pu le faire en Afrique du Sud au moment de la Coupe du Monde également en 2010, puisqu'il y a très très peu de chances de pouvoir générer une activité qui permettra de rentabiliser ce stade. Ça, c'est la première réflexion.
Didier Primo, si vous le permettez, entre votre première et votre seconde réflexion, hein, et je rappelle encore une fois que vous êtes en duplex depuis France Bleu Limousin, quand vous dites « le Brésil a décidé que », c'est le Brésil qui a souhaité faire plus de stades que ne l'imposait le cahier de charge de la FIFA, mais c'est qui le Brésil ?
En l'occurrence, là, je crois qu'on peut le personnifier, puisque c'est une décision qui a été, du moins, qui semble être attribuée à Lula lui-même quand il était président, c'est une décision politique en tant que président, mais il semblerait qu'il avait lui-même la volonté quasi personnelle d'en faire un événement pour tous les Brésiliens, pour tout le Brésil. Peut-être aussi avec une arrière-pensée politique, puisqu'effectivement, il avait la perspective de passer la main à une collègue et l'actuelle présidente. Dilma Rousseff, et sans doute que le fait, effectivement, de mobiliser, de concerner tous les États, de mobiliser tout le territoire, était au départ un atout. Et puis une volonté qu'on pouvait considérer aussi comme intéressante dans une certaine mesure. Sauf que derrière, effectivement, il y a des coûts et des modèles économiques qu'il faut bâtir pour éviter justement ces éléphants blancs dont on parlait.
Alors, votre deuxième remarque.
Quand on vient sur l'exemple français, 1998, on met l'essentiel de l'argent sur un stade, le grand stade, construit un petit peu en catastrophe. On n'était pas dans la situation du Brésil, mais vous vous souvenez des grands débats et des difficultés pour l'implantation en particulier du stade qui a bougé à plusieurs reprises.
Le stade de France, donc, pleine
salle. Le stade de France, en 1998, effectivement. 2016, au contraire, on construit plusieurs stades et on rénove des stades. Parmi ces stades, il y en a un qui a un statut un peu particulier, qui est le stade effectivement de Lyon, les autres étant des stades qui vont rester propriété des collectivités locales et qui sont financés pour l'essentiel sur ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. Et du côté du stade de Lyon, on retrouve en fait une ambiguïté, une ambivalence très forte qui est à la fois la question économique et la question politique. C'est qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, un stade qui a suscité pas mal de polémiques. Mais d'un autre côté, c'est un stade qui est financé majoritairement par de l'argent privé, qui effectivement sera utilisé ensuite par une entreprise privée, le club de Lyon. Alors en mobilisant un peu, voire un peu et de trop. En mobilisant de l'argent public de façon non négligeable, puisqu'il y a les aménagements autour du stade qui, eux, sont relèvent de dépenses publiques, mais au final, on aura quand même un stade qui sera majoritairement payé par le privé et qui, effectivement, bénéficiera à une structure privée. Alors, comme dans un certain nombre d'autres cas, les collectivités s'endettent pour construire ces stades. Et on a une réflexion, sans doute, à pousser sur ces questions-là pour savoir, effectivement, quel est vraiment le projet collectif qu'on veut soutenir autour de ces grands événements dans l'avenir, puisque ces questions-là vont se reposer très rapidement.
Oui, mais il n'empêche, et je me tourne vers vous, Jean-Marc Holtz, pour vous reposer un peu la même question que celle à laquelle vient de répondre Didier Primo. Est-ce qu'il y avait besoin d'un nouveau stade à Lyon? Je veux dire, quelle est la vraie raison pour laquelle le président du club, M. Aulas, a tellement tenu et est parvenu à faire financer la construction d'un nouveau stade?
Je m'interroge effectivement, je ne connais pas le détail de la chose, mais c'est vrai qu'il fut un temps où on privatisait les stades. C'était le cas, par exemple, aussi au Mans. Et on a vu l'équipe du Mans disparaître. Et on a donc des éléphants blancs en France aussi. Et Lyon, c'est peut-être ce qui menace si l'équipe n'a pas les résultats attendus. Cela dit, ce n'est pas nécessaire, je pense, de construire partout de grands stades et de nouveaux stades. D'ailleurs, en Afrique du Sud, à la Coupe du Monde de 2010, le gouvernement voulait simplement rénover un stade et c'est la FIFA qui lui a imposé la construction d'un nouveau stade
dans un cas.
Mais, tout simplement parce qu'il y a derrière des liens avec le bâtiment, travaux publics, l'industrie des bâtiments et des faits de corruption qu'on ne peut pas nier. C'est un fait. Mais ça pose aussi le problème, si vous voulez, de greffe de tels spectacles et de tels équipements lourds, très gros, à vocation mondiale, sur des structures qui ne sont pas en mesure de les accueillir. Par exemple, la Coupe du Monde de football, c'est en 2006, si je ne me trompe, en Allemagne, a coûté 3 milliards d'euros, entre guillemets, seulement, c'est-à-dire 2 à 3 fois moins que ce qu'elle va coûter pour le Brésil. Tout simplement parce que toutes les infrastructures étaient là, les stades étaient là, les routes étaient là, les aéroports, les métros. Et de ce fait, il y a bien un problème qui se pose, c'est celui de conquérir de nouveaux territoires que sont les pays émergents. Par exemple, implanter les Jeux Olympiques en Asie en 1964, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose d'extraordinaire qui préfigure en quelque sorte la montée en puissance de l'Asie.
C'était Tokyo.
Ceux de Tokyo en 1964, et ça a des conséquences multiples, innombrables, sur lesquelles on n'aura pas le temps de revenir, mais des conséquences géopolitiques, les liens, par exemple, que le Japon a pu mener avec la Chine et la réintroduction de la Chine dans le giron olympique. Donc, à chaque fois, le résultat pour autant immédiat, c'est que en Corée, les coûts ont été très élevés parce qu'il n'y a pas de culture du football, donc on a dû créer de toutes pièces des stades, de même au Japon.
La Coupe du Monde.
Du monde de 2002, oui, je reviens à ce fait. Ça a coûté à peu près deux fois et demi ce qu'ont coûté les Jeux en Allemagne. Mais aujourd'hui, à long terme, une quinzaine d'années plus tard, le football se développe au Japon. Ça intéresse tout le monde, ça n'intéresse pas que les grands clubs, mais ça intéresse aussi les gamins dans les villes, dans les quartiers. Et donc il y a eu un effet, si vous voulez, dans un premier temps, je retiens, négatif, et un effet relativement positif à long terme. Et ça a permis aussi à un sport de se développer à une autre échelle. Et on le voit dans l'histoire du sport, c'est le cas de tous les sports. Tous les sports, à un moment donné, apparaissent quelque part, sont exportés. Par exemple, le vecteur, ça a pu être la colonisation. Et puis, ils sont parfois réimportés de façon différente et colonisent, entre guillemets, l'ensemble de la planète.
Alors là, en tous les cas, c'est vous qui faites, un écho avec le processus de colonisation ou avec la métaphore de la colonisation que j'ai employée moi aussi dans le titre de l'émission, en se demandant avec les auditeurs si le CIO, la FIFA, les JO, les mondiaux peuvent être considérés ou doivent être considérés comme finalement des puissances coloniales du 21e siècle. Hein. C'est donc le sujet de Planétaire pour les auditeurs qui nous rejoignent. Hein. On est bien sur France Culture et il est bientôt 14h29. La question de mon point de vue se pose d'autant plus, hein, et vous venez donc de l'évoquer, Jean-Marc Holtz, que si j'ai bien compris, on est totalement hors du droit international s'agissant d'événements qui sont pourtant très internationaux, voire d'événements qui sont maintenant mondialisés. Hein. Et donc, quand un pays organise les Jeux Olympiques, ou une ville, ou bien le Mondial, j'ai l'impression, mais vous allez nous confirmer ça, qu'il signe un espèce de contrat de droit privé entre lui-même, si c'est un État ou une municipalité elle-même, et soit le CIO, soit la FIFA, et puis qu'à partir de là, on est finalement en dehors du droit public commun et du droit international. Alors, première question, mais comment c'est possible une chose pareille, s'agissant d'un événement aussi important, et s'agissant d'un événement pour lequel les uns et les autres, vous venez d'expliquer qu'il avait des conséquences ou même des effets diplomatiques tout à fait importants. Donc on a vraiment l'impression qu'on est dans les relations internationales. D'ailleurs, très souvent, on parle, ou certains chercheurs, pour je ne sais pas quelle raison, parlent de géopolitique, du football, ou bien de géopolitique des Jeux Olympiques. Mais en fait, on est totalement dans des relations contractuelles privées avec des éléments d'extraterritorialité. Loïc Ravenel, comment vous expliquez ça et quelle est votre appréciation ? Est-ce que vous avez le sentiment que mon étonnement est exagéré ?
J'aurais juste avant revenir sur le terme de colonisation.
Allez-y.
Si on employait cette analogie, ça voudrait dire que le colonisé fait appel au colonisateur. Car les pays ou les villes, encore aujourd'hui, se battent, sont en concurrence pour avoir les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football. Et donc, on est dans un système où, s'il y a, et ensuite, effectivement, il y a ces problèmes de, on va le voir, de régulation, mais s'il y a ces problèmes-là, elles sont aussi, comment dire, demandées par les pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une imposition, on n'aura pas imposé les Jeux Olympiques, on n'aura pas imposé la Coupe du Monde.
Certes, mais si vous le permettez, le Gradel, c'est qui, quand on dit la ville a souhaité que, le pays a souhaité que, mais bon, il y a des jeux d'acteurs, c'est-à-dire c'est qui.
Alors après, on arrive sur les jeux d'acteurs, on arrive sur la sphère politique. C'est-à-dire, alors, si on revient sur l'histoire du Brésil et cette Coupe du Monde, elle se fait à un moment à la fois économique et politique tout à fait particulier. C'est l'époque où le terme de BRICS, donc, c'est-à-dire des pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud,
et Chine,
devient extrêmement important. Ces pays connaissent une très très forte croissance économique. En 2008, les Jeux Olympiques sont à Pékin, la Coupe du Monde d'Afrique du Sud en 2010, et le Brésil en 2007, au moment de d'un grand boom économique, reçoit la Coupe du Monde. Et sa classe politique, mais aussi la population à ce moment-là, est parfaitement heureuse et contente d'accueillir la Coupe du Monde, valorisant d'une certaine manière le retour ou aux premières places du Brésil sur la scène internationale. Donc là, il y a tout à fait un consensus entre une classe politique et une population.
Bah, en tout cas, c'est plus le cas.
Alors,
peut-être que c'était le cas en 2007, mais depuis 3 ans, manifestement, ce n'est plus le cas.
Exactement. Parce que d'une part, la situation économique des BRICS et du Brésil s'est un petit peu détériorée. C'est-à-dire que c'est un pays qui a connu une très forte croissance économique grâce à son exportation de matières premières, et les coûts des matières premières à l'exportation a un petit peu baissé. Sous les années Lula, une partie des classes pauvres ont accédé à une plus grande richesse, ont accédé à une sorte de classe moyenne inférieure. Et avec la crise, bah, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train de sentir qu'ils peuvent retomber peut-être dans la pauvreté. Ces gens-là aussi, c'est extrêmement intéressant, payent des impôts maintenant. Et donc, payent des impôts et sont soucieux de l'utilisation de leur argent par la sphère publique. Et quand ils voient effectivement qu'au Brésil, les infrastructures, notamment en termes de santé et d'éducation et de transport, ne suivent pas ou ne suivent pas au rythme de leurs espérances et de leur évolution, de leur pouvoir d'achat ou du moins de leur condition de vie, il y a un mécontentement, car effectivement, des dépenses inconsidérées, notamment dans la construction de stades, et Didier Primo a tout à fait raison que c'est un choix avant tout du président Lula. La FIFA demandait simplement 8 stades. Lula a voulu faire un projet géopolitique au niveau du Brésil sans tenir compte de l'utilisation économique future. Et donc, aujourd'hui, on a effectivement des tensions parce que la situation a évolué. Alors après, elle se focalise, cette tension, effectivement, sur les demandes de la FIFA pour modifier les règles ou le droit brésilien. Alors, c'est essentiellement, peut-être on peut le rappeler autour
de
quelques points. Alors, ces quelques points, c'est tout d'abord essentiellement sur ce, finalement, que va gérer la FIFA, c'est-à-dire le spectacle et notamment le stade et les abords du stade. Alors, la FIFA, par
les
exemple...
Les abords du stade, c'est combien de kilomètres de rayon, Loïc Revenel ?
Alors, le rayon de la zone dite d'exclusivité, c'est 2 kilomètres. Alors, dans ces 2 kilomètres, tout simplement, la FIFA demande...
À multiplier donc par 12 stades dans les plus grandes villes du Brésil.
Voilà, demande à ce qu'il n'y ait aucun, que tous les produits vendus, tous les stands disponibles soient ceux des sponsors officiels de la FIFA, c'est-à-dire ceux qui payent énormément pour être sponsors officiels. Alors, sauf que dans le cas du Brésil, traditionnellement, dans ces zones de proximité des stades, vous avez, même comme en France aussi, énormément de petits vendeurs à manger, de drapeaux, etc. Et ceux-ci, donc, sont rejetés à la périphérie et à la lointaine périphérie de ces stades. Et effectivement, ça peut poser problème, notamment dans un pays où le secteur informel est extrêmement important. Donc, cette zone d'exclusivité, effectivement vue par les populations et aussi par l'opposition, je dirais, au gouvernement et l'opposition aussi qui manifeste aujourd'hui dans les rues, comme un petit peu le symbole de cette mainmise de la FIFA. C'est le cas aussi avec les ventes de boissons dans les stades où une seule marque de bière est autorisée, qui est la marque de bière sponsor de la FIFA.
Quel pays ? Le sponsor brasseur, il y a...
Je crois qu'il est américain.
Américain.
Alors que les Brésiliens ont... Enfin, je ne sais pas si c'est l'habitude, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de brasseurs brésiliens.
Exactement. Bon, il y a énormément de bières exclues brésiliennes.
Territorialement.
Qui sont donc exclues. Alors, donc, c'est cette extraterritorialité qui est en train de remonter, et elle remonte aujourd'hui parce qu'il y a effectivement ce contexte social qui fait que les conditions ont changé. Et aussi, au Brésil, on est dans une société quand même relativement démocratique où les gens peuvent s'exprimer. Et la Coupe du Monde fait ressortir un petit peu tous les problèmes de la société brésilienne. Et Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, mais la corruption qu'il y a au Brésil est aussi un des gros soucis dans l'augmentation des coûts de ce mondial.
Alors, mais ces problèmes d'extraterritorialité, là, on voit bien que la question du coup des partenaires, se soulève un petit peu. Jean-Marc Holtz, est-ce que vous pouvez peut-être nous mettre un petit peu en perspective à la fois dans l'espace et dans le temps, l'importance de ces partenaires? Moi, j'ai cru comprendre, par exemple, que s'agissant de la FIFA, d'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, on dit Coupe du monde de la FIFA. Il me semble que c'est relativement récent. C'est devenu une marque, alors qu'il y a encore, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 éditions, enfin, je ne sais pas depuis quand on dit ça, mais pendant des années, on disait la Coupe du monde de foot, quoi. Hein, comme si c'était. Il y avait au moins l'illusion nominalement que c'était un événement qui appartenait à une sorte de société mondiale. Mais maintenant, même ça, ce n'est plus le cas. Mais en ce qui concerne les partenaires, parce que finalement, c'est un club très fermé, les partenaires.
Au départ, à l'origine, si on reprend un petit peu l'évolution, à l'origine, le CIO était un club d'une dizaine de personnes qui était très socialement classé, l'aristocratie, des personnes relativement jeunes, relativement aisées. Et puis, petit à petit, ce CIO a évolué et il compte aujourd'hui une centaine de membres qui sont cooptés. Alors, on peut faire une critique sur la cooptation en disant que ça n'est pas démocratique. Il faudrait aussi s'interroger sur les modes d'élection qui seraient pas très simples.
Mais s'agissant des partenaires, alors,
le CIO est resté ouais. Donc, si vous voulez, au départ, une sorte de club sportif, entre guillemets, qui n'avait pas de partenaire et qui s'est au contraire battu pour éviter l'intrusion de l'État. C'était le premier élément, l'intrusion de l'État et l'intrusion, disons, du pouvoir politique. Et au fil du temps, on s'est aperçu que les premiers jeux, commençaient à intéresser de plus en plus de personnes et commençaient aussi à intéresser les hommes politiques. À chaque fois, le CIO s'est battu pour éviter cette intrusion et pour donner la liberté aux joueurs de jouer. On se souvient plus de ce qui s'est passé, par exemple, en 1912, je crois, à Stockholm. Mais là, le CIO a imposé, la possibilité... Oui, mais c'est très important de remonter loin dans le temps.
Oui,
pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. A imposé la possibilité aux athlètes finlandais et aux athlètes bohémiens, de Bohème, de circuler, alors que les premiers dépendaient de la Russie. La Finlande Finlande n'était pas un État, c'était une sorte de duché ou une marche de l'Empire de la Russie. Et la Tchécoslovaquie ou la Bohême dépendaient de l'Empire austro-hongrois. Et pourtant, ils ont pu défiler. Donc, cette volonté de s'affranchir de l'État et de s'affranchir du pouvoir de l'État a toujours été une sorte d'ADN du CIO. Et on le trouve encore avec le rôle majeur qu'a joué ou que joue d'ailleurs le CIO dans la promotion de la Palestine. Si la Palestine a été reconnue comme membre, comme observateur à l'ONU, elle l'a été auparavant par le CIO, elle a pu défiler aux Jeux Olympiques de 1996, etc. Donc c'est un point important. Puis petit à petit, le CIO a même dû se défendre de ces intrusions de l'État en permanence. On l'a vu avec 1936, même chose pour le championnat du monde de football en Italie en 1934. Et c'est seulement à l'issue d'un processus, je dirais, de quasi-décomposition du mouvement olympique que celui-ci a réagi sous la férule de Samaranch, avec peut-être des exagérations qui sont tout à fait condamnables. Mais les Jeux étaient vraiment fortement instrumentalisés. On a vu 1936, mais il y a eu ensuite toute une série de boycotts multiples. À chaque problème, à chaque guerre, à chaque tension, les Jeux ont souffert de la guerre froide. Et les Jeux avec eux, les athlètes et tout le sport en général. Et c'est donc à partir de là que un troisième acteur est en même temps un troisième moteur intervient, qui est l'économie, la puissance économique. Et de ce fait, le CIO, ou disons le mouvement olympique et le mouvement sportif mondial, se trouve aujourd'hui partagé entre des associations dont on a l'impression qu'implantées en Suisse, elles sont totalement neutres, c'est une illusion bien sûr, mais qui défendent, surtout pour le CIO, moins pour la FIFA, qui défendent un idéal sportif, même si c'est inscrit aussi dans les statuts de la FIFA. On a ensuite les acteurs politiques, les États, les acteurs économiques multiples, parmi lesquels les médias sont aujourd'hui les plus puissants, et puis d'autres acteurs qui émergent, la société civile sous forme d'ONG. Et le sport et le mouvement sportif et le mouvement olympique aussi, entre toutes ces tensions en permanence, et ça c'est quelque chose de très difficile. Je voulais simplement rebondir sur un point que vous avez évoqué, à savoir l'aspect juridique. Il est flou actuellement, il est très complexe. Mais on a vu le Brésil changer ses lois sous la pression de la FIFA, on a vu également l'Angleterre, qui est quand même un des berceaux de la démocratie, changer également ou modifier sensiblement certains de ses textes pour s'accommoder de la volonté du CIO et de la FIFA. Parce que finalement, le CIO est propriétaire des Jeux Olympiques. Il est propriétaire. Donc c'est un bien qui entre dans son bilan. C'est lui qui les a créés, il est propriétaire. Si vous créez aujourd'hui, demain, une entreprise, elle vous appartient si vous avez 100% du capital. Bien, il est propriétaire.
Je comprends bien, mais ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que,
non, ce n'est pas neutre.
Là, enfin, il s'agit d'une compétition, enfin, dans les deux
mais
cas.
Mais c'est devenu une compétition qui est aujourd'hui mondiale, regardez, qui ne l'a pas été.
Certes,
elle est presque victime de son succès. Dans
mais ça aurait pu, évoluer.
Justement, mais ça évolue. D'abord, les Jeux n'existent que parce que ça évolue. Et ensuite, que ce soit la FIFA ou le CIO, ont décliné une quantité de programmes, si vous voulez, de développement du sport de toute forme, c'est-à-dire les Jeux paralympiques, promotion de catégories discriminées, le football féminin. Il joue également un rôle très important dans les pays musulmans pour favoriser l'accès des femmes au sport. Ça n'a pas été simple. Certaines femmes courageuses, je pense à certaines coureuses de fond d'Algérie, ont eu des problèmes dans leur pays et se sont battues. Le CIO était toujours derrière. Donc il faut, je crois, éviter de diaboliser trop systématiquement ces institutions, dans la mesure où finalement le sport et l'événement sportif majeur qu'est les Jeux Olympiques ou que sont les Coupes du Monde, ne font que mettre le doigt là où ça fait mal dans un pays. Et on a bien vu que l'échec d'Annecy est lié à la cacophonie générale qui régnait en France entre les différents acteurs.
Je comprends bien, mais comme vous le montrez de façon très convaincante dans le livre que vous avez dirigé, Jean-Marc Coll, ces Jeux Olympiques et leur territoire, on voit bien aussi comment comment la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018, donc candidature qui a échoué, met bien en avant le rôle ou la volonté, en tous les cas, d'un certain nombre de grandes entreprises, vous citez en particulier le cas d'une grande entreprise de publicité et de communication parisienne qui a cherché à jeter son dévolu sur cette candidature. Didier Primo, alors sur la place des grands partenaires économiques, s'agissant de la Coupe du Monde de football, on pense notamment à Coca-Cola ou à Adidas, qui sont là depuis, je crois, très longtemps dans ces organisations. Est-ce que ça ne crée pas des espèces de rentes de situation qui ont ensuite un effet, comment dire, de plus en plus contraignant sur l'organisation de ces manifestations et qui se voit tout à fait dans une emprise territoriale. Loïc Ravenel parlait tout à l'heure de cette aire de 2 km de rayon autour des stades, mais est-ce que ça ne va pas au-delà, notamment quand on pense à l'espace public, y compris à l'espace public télévisuel ou par Internet, avec les espaces qui sont réservés dans l'espace public à la promotion, à la publicité, à la communication?
C'est évident que le poids, comme le disaient bien mes collègues aussi, historiquement de ces différents partenaires, c'est accru au fur et à mesure que l'économie se mondialisait, que les événements prenaient une importance très très grande pour un certain nombre d'enjeux économiques. Une des façons de traduire, peut-être, pour faire un tour d'horizon très très rapidement, c'est finalement de se demander à qui profitent ces événements. C'est évident que les partenaires principaux et historiques, que ce soit du CIO ou que ce soit de la FIFA, sont parmi les bénéficiaires évidents de ces grands événements, puisqu'ils ont là une fenêtre mondiale avec la possibilité de s'adresser effectivement à la planète entière à travers ce support des grands événements qui est aujourd'hui quasi unique au monde. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres qui bénéficient de ces grands événements. Donc les institutions sportives, bien évidemment, elles-mêmes, on le disait à l'instant, FIFA, CIO, mais également qui irriguent, et Jean-Marc Holtz l'évoquait également, qui irriguent en fait tout leur système au niveau international. Et il faut effectivement le souligner, c'est-à-dire qu'il y a une vraie redistribution, tant au niveau du CIO que de la FIFA, vers les fédérations nationales. Pour partie, pour ce qui concerne le football, vers les clubs, puisque depuis 2010, les clubs maintenant sont indemnisés en fait pour la mise à disposition des joueurs dont qu'ils ont sous contrat, qu'ils sont leurs employés. Et donc, c'est l'ensemble en fait du système du football qui va effectivement bénéficier des retombées de ces grands événements, que ce soit les fédérations participantes ou les fédérations non participantes. Les athlètes, bien évidemment. Sur le football où les athlètes sont tous professionnels, ils sont rétribués, leur image va se trouver valorisée et ils sont donc également les bénéficiaires de ces grands événements. Parmi les autres entreprises qui ne sont pas forcément des partenaires, des sponsors de la FIFA ou du CIO, mais qui sont des bénéficiaires évidents dans le cas de la Coupe du Monde au Brésil, on citait les entreprises du BTP. C'est clair qu'une partie des revenus qui sont effectivement générés tombent dans les poches des entreprises de BTP qui font partie des acteurs qui ont un intérêt très très clair à ce type d'organisation. C'est vrai aussi de toutes les agences. Il y a une myriade en fait d'agences qui sont des conseillers pour les candidatures, des opérateurs en termes de communication, de relations publiques, etc., qui vont effectivement vivre aussi sur ce système-là. Et on a pour partie les spectateurs, les citoyens, les spectateurs qui vont assister et dont ils nous disent quand on les interroge qu'ils accordent effectivement une valeur à la capacité qu'ils ont de participer, d'assister à une manifestation comme celle-ci. Et puis, quand on s'éloigne un petit peu, on peut avoir à la marge, et quelquefois, ça n'est plus du tout à la marge, mais les hommes politiques qui vont utiliser ces événements-là pour effectivement promouvoir leur propre candidature. Donc, quand ça se passe bien, c'est un excellent vecteur pour eux. Quand ça se passe moins bien, ça peut être un petit peu plus compliqué. On peut avoir également, de façon un peu plus accessoire, des territoires, en fait, et on pense en particulier au Nord-Pas-de-Calais, en fait, par rapport aux Jeux de Londres. Quand vous n'êtes pas vous-même organisateur de l'événement, mais que vous êtes à proximité, vous pouvez gagner sur tous les tableaux. Vous n'avez pas les dépenses et vous avez une chance d'avoir l'afflux de public ou d'équipes qui transitent par votre territoire. Donc là, on a effectivement d'autres bénéficiaires à ce niveau-là. Et puis, ceux qui ne profitent pas finalement de l'événement, on peut dire qu'en premier lieu, sur l'histoire en fait, des 20 dernières années, les premiers qui ne profitent pas véritablement de l'événement, ce sont les contribuables du pays organisateur. Parce qu'effectivement, les coûts sont importants. Et que les revenus reversés ensuite par le CIO ou la FIFA, paradoxalement, vont plus vers les autres pays au regard de leur implication monétaire qui était nulle, que vers ce pays organisateur qui, lui, a consenti des sacrifices importants. Et c'est vrai que nous, à un moment donné, on avait suggéré, par exemple, que les restitutions des reversements vers, par exemple, l'Afrique du Sud auraient peut-être dû être supérieures pour saluer aussi leur effort et leur contribution à la réussite de la manifestation. Donc c'est sans doute cela, effectivement, les contribuables du pays qui vont être les moins finalement récompensés ou bénéficier le moins des retours. Et puis aussi, et le cas du Brésil donne sans doute, met en lumière cet aspect-là des choses, c'est que quand l'événement prend une dimension très très grande et avec des coûts qui sont assez déconnectés de la réalité de la vie du pays, c'était le cas en Afrique du Sud, c'est aussi un peu le cas au Brésil, il y a des gens qui de fait auraient voulu assister au spectacle et qui vont s'en trouver exclus alors même que ça se passe dans leur pays. Et puis dernière peut-être catégorie qu'on peut souligner dans les perdants, oui, au moins dans le court terme, les derniers perdants, ce sont souvent les diffuseurs, en fait. Par exemple, les diffuseurs français de la Coupe du Monde de football ne gagnent pas d'argent. Dans certains cas, ils peuvent même en perdre pas mal. Coupe du Monde 2002, élimination de l'équipe de France au premier tour, qu'on n'attend pas. TF1 perd énormément d'argent. Donc voilà pour faire un panorama très rapide, en fait, des bénéficiaires et des non-bénéficiaires, finalement, de ces événements.
Mais est-ce que j'entends bien, en comprenant Didier Primo, que il vous paraît possible, en tous les cas, d'envisager non pas une condamnation ou en tout cas une lutte contre ce grand type d'événement avec ses dérives, hein, parce que sans aller jusque là, vous voyez là j'ai sous les yeux un papier de votre collègue bien connu Jean-Pierre Augustin, hein, qu'on avait d'ailleurs déjà invité dans Planétaire il y a quelque temps, qui écrit la mondialisation obéit à des logiques libérales. La mondialisation du sport, pardon, obéit à des logiques libérales et transnationales, hein, et elle s'accompagne de dérives, hein, marché mondial du dopage, développement des paris en ligne aux mains de groupes mafieux, blanchiment d'argent sale, bon, des phénomènes qui sont connus, mais finalement dont on parle moins, hein, que de l'événement lui-même. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut entendre dans vos propos aux uns et aux autres qu'un autre modèle économique est souhaitable, est possible, ou bien que, à l'image de ce qu'a fait Dave Zirin, hein, un journaliste sportif bien connu aux États-Unis, qui le 6 juin dernier a publié une tribune dans le New York Times, dans laquelle il dit « Throw FIFA out of the game », hein, c'est-à-dire « mettons la FIFA hors jeu ». Est-ce qu'il faut aller jusqu'à, comment dire, enlever, hein, ce type d'organisation d'événements sportifs, le mondial, l'enlever des mains de la FIFA, voire dissoudre la FIFA dans un cas ici ou dans l'autre, pour essayer de promouvoir un autre modèle économique, si c'est possible, pour organiser ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusqu'à, au contraire, envisager, de faire en sorte que ce type de grands événements sportifs n'ait plus lieu, parce que finalement, les inconvénients ou les effets pervers sont bien plus grands que tous les effets dont j'ai bien entendu qu'ils étaient, selon vous, nombreux, mais la balance, finalement, mériterait de se poser la question d'une espèce de dissolution de tout ça. Bien sûr.
Pardon, je veux bien prolonger en deux secondes et deux remarques juste.
Didier Primo, de Limoges, donc.
Les dérives existent, elles sont importantes et elles sont d'autant plus insupportables qu'elles sont souvent en décalage avec un discours éthique très très fort. Donc là, je crois que l'avenir imposera qu'il y ait un rapprochement entre ces deux éléments très très opposés. La deuxième chose, c'est effectivement, on peut souhaiter la suppression de ces événements-là, pourquoi pas. Dès lors qu'ils existent, il faut quand même souligner que la FIFA n'est pas moins vertueuses que peuvent l'être certains États, et y compris dans le sport, on a pu voir l'utilisation qu'en faisait la Russie récemment ou la Chine. Et je dirais trois, dans un système économique libéral et mondialisé, qui pour organiser? Une multinationale? Je ne crois pas qu'aujourd'hui les multinationales soient plus vertueuses.
L'ONU.
Et je dirais deuxième point, je ne connais pas une seule multinationale qui redistribue de façon solidaire, parce que c'est aussi une réalité. 15% de ses revenus, c'est sans doute trop peu. Mais c'est à peu près ce que redistribue, par exemple, l'UEFA par rapport à ses revenus de la Champions League, à des causes véritablement sociales.
L'UEFA, donc, qui est l'Association européenne de football.
Voilà,
Jean-Marc, vous vouliez réagir aussi à
la Champions League
sur ce
je
point.
Je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon collègue et j'ajouterai un point tout simple. Supprimons, par exemple, la Coupe du Monde. Très bien. Il faut indemniser la FIFA. parce que elle est propriétaire quand même d'un bien culturel qu'elle a construit. Et il faudrait donc l'indemniser de la même manière qu'il faut indemniser le propriétaire d'une entreprise quand on la nationalise. Donc ça coûterait cher. Par qui la remplacer? Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça sera mieux fait? Est-ce que ça pourra mieux s'inscrire dans le mouvement olympique qui doit quand même, je le pense, se maintenir? Ça paraît difficile. En revanche, je serais favorable à des évolutions et à des améliorations successives. Vous avez évoqué le dopage. L'AMA a été créée en 1999. C'était tout récent. C'est le CIO qui, le premier, a lancé la lutte contre le dopage.
L'AMA, donc l'Association mondiale de lutte contre le dopage.
Voilà, qui a son siège à Montréal, mais qui a aussi des bureaux dans différents continents. Elle se développe aujourd'hui. Elle va même mener de façon encore plus intensive ses investigations. Ça pose d'ailleurs des problèmes avec la FIFA, dans certains cas, pour le suivi personnalisé des athlètes. Mais c'est dans ce sens qu'il faut aller. Plus de verts, plus de développement durable, plus de relations aussi avec l'UNESCO, qui a un peu perdu de vue le sport. Autant d'éléments qui, à mon avis, sont très intéressants comme piste pour l'avenir.
Barreira, eu vi. Aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões.
Jean-Marc Holt, Didier Primo, Loïc Ravenel, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Les références de vos publications sont en ligne sur le site de France Culture à la page de l'émission Planète Terre, qui vous proposait donc à tous aujourd'hui JO, mondiaux, CIO et FIFA. Sont-ils les nouvelles puissances coloniales du 21e siècle? On a donc pu entendre que les avis étaient partagés, mais la réponse, je crois, de vous trois, en tous les cas, est plutôt non. Alors c'est pourquoi on se quitte sur un contrepoint, à savoir la chanson d'Edu Krieger, fameux chanteur brésilien, qui a donc composé cette chanson contre la Coupe du Monde 2014 au Brésil, en alternative à l'hymne officiel chanté par Jennifer Lopez.
Foi mal, Filipão. Nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção.
Desculpe Neymar, hein. Excuse-moi Neymar, donc cette chanson de Edu Krieger. Luc-Jean Reynaud, Pierrick Monsigny, Catherine Madur et la documentation sonore de Radio France nous sont accompagnés en régie et dans les préparations de l'émission. Comme les précédentes, elle est en ligne 1000 jours et en podcast 1 an. Je vous remercie tous de votre attention et de votre fidélité et je vous invite à poster vos commentaires sur la page Planète Terre de France Culture et à suivre, si vous le souhaitez, l'émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis, je vous convie à consulter la liste de toutes les émissions qui sont en écho à Brésil 2014. C'est sur franceculture.fr et surtout à ne pas manquer demain votre rendez-vous avec Culture Science. Le jeudi à 14h, c'est Aurélie Luneau qui l'anime avec sa Marche des Sciences.